Aujourd'hui, nous recevons Patrice Quéré. Patrice Quéré est océanographe, biologiste. Il est directeur de recherche et directeur du département ressources vivantes à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, qui est l'ex-Orstom. Il est spécialiste des ressources marines sur la côte africaine, également spécialiste de la pêche thonnière, de la biologie des thons, de leur migration, mais aussi de leur comportement. Il est membre du conseil scientifique de l'IFREMER, membre du comité de coordination des recherches des sciences du vivant au ministère de l'Éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Outre des articles qu'il a fait paraître dans la presse spécialisée, et il a également apporté sa contribution à des émissions de radio, de télévision ou dans des magazines de presse générale. Il a publié aux éditions de l'IRD en 1998 un ouvrage intitulé « Les ressources thonnières, perspectives et stratégies pour les océans indiens ». Patrice Quéré, je vous laisse donc la parole pour 50 minutes. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Je commencerai cette conférence par une remarque. Les organismes de recherche et d'enseignement supérieur sont sollicités assez fréquemment et très régulièrement par des parlementaires soucieux de la pêche et quelque peu surpris et désemparés par la complexité de ce milieu et par les décisions qu'ils ont à prendre. Parmi ces questions, celle du genre, y a-t-il une spécificité des métiers de la mer ? Y a-t-il une spécificité des métiers de la pêche en particulier ? Et en quoi consiste-t-elle ? Cette question revient très régulièrement. L'insistance et la répétition de ce genre de questions illustrent bien l'importance que tient la pêche et la mer dans notre culture et dans notre société. Cela malgré une importance économique relativement faible, puisque, pour ce qui concerne notre pays, la pêche représente en tout un chiffre d'affaires d'environ 9,5 milliards de francs, ce qui est relativement faible. C'est donc plus par sa dimension culturelle, historique, que la pêche tire une importance non commensurable avec son poids économique réel. Ceci explique, par exemple, et à titre d'anecdote, que dans l'espace européen, alors que la pomme de terre représente un chiffre d'affaires deux fois supérieur à celui de la pêche, il n'y a pas de direction générale de la pomme de terre, mais il y en a une de la pêche, c'est la DG14. Cette place particulière de la pêche et des métiers de la mer provient du fait que l'on s'adresse à des ressources naturelles, fournies par la nature et qui se renouvellent donc selon leur propre rythme et complètement naturellement. À cette idée de ressources naturelles est associée, sont associées les notions de risque et d'incertitude qui viennent à l'esprit dès que l'on parle de la mer et de la pêche. Donc les notions de fortune de mer. Quelle autre activité, en effet, permet de rémunérer ces acteurs, au moins en partie, à la part, selon le hasard et la bonne chance de la fortune de mer. Il y a donc un impact affectif très important dans la pêche, impact qui n'existe pas vis-à-vis de l'agriculture. Les notions d'incertitude, de mystère, ne sont pas associées à celles de l'agriculture, alors qu'elles le sont toujours avec celles de la mer et de la pêche. On a toujours, au fond de nous, l'idée, profondément enracinée dans nos cultures, qu'à un moment de l'évolution, nous sommes tous venus, en tant qu'organismes vivants, nous sommes tous venus de la mer. Ceci explique que le poisson en particulier sert de symbole de la naissance, de la régénération, de la purification et de la fécondité pour de nombreuses civilisations, égyptiennes entre autres. Là, vous voyez même un exemple assez extraordinaire d'un sarcophage de poisson contenant une momie de poisson. Donc, civilisation égyptienne, phénicienne, grecque, mais aussi de multiples religions, l'islam, le christianisme. Là, je pense que vous voyez pour le moment une représentation copte du 5e siècle avec le symbole du poisson. Il n'est pas étonnant dans ces conditions que la gestion des pêches, la gestion d'une exploitation et d'usage qui touche à un mythe soit aussi compliquée et aussi complexe. En plus de cette notion culturelle et voire mythique Des éléments objectifs compliquent encore la question. La pêche, en fait, s'adresse à des ressources qui sont un patrimoine commun, dans la mesure où il n'y a pas de droit de propriété. En plus, il y a une multiplicité d'acteurs qui interviennent dans la pêche et une très grande diversité d'engins de pêche, avec un exemple ici de NAS, de centaines de NAS, et d'une pêche communautaire au Tchad. Les ressources auxquelles s'adresse la pêche présentent en plus la particularité, en raison de leur côté naturel, d'être très lentement réversibles. Les écosystèmes, qui contiennent donc les ressources aquatiques marines, ont la faculté, une fois qu'ils ont été très affectés, de pouvoir revenir à un état initial très lentement et de manière très incertaine. Et en plus, nous avons, de manière concrète, un très faible pouvoir de contrôle sur l'abondance de ces ressources, sur l'abondance des communautés de poissons très diverses et dont les fluctuations sont induites à la fois par la pêche, mais aussi par les variations de l'environnement, du climat, les variations naturelles. La pêche dont les premières traces remontent au paléolithique, les premières traces concrètes, et à près de 100 000 années avant notre ère, a toujours joué un rôle majeur dans l'alimentation humaine. Ce rôle, elle l'a conservé à nos jours, jusqu'à nos jours, puisqu'à l'heure actuelle, près de 17% des protéines animales proviennent de ressources aquatiques, marines ou continentales. La chasse, à l'inverse, puisqu'on a toujours comparé l'histoire de la pêche à celle de la chasse, a perdu ce rôle dans l'alimentation. L'Afrique, par exemple, en Afrique, la principale source de protéines animales, c'est bien la pêche, avant toute autre source, qu'elle soit de chasse, volaille, d'élevage ou de gibier. Les engins utilisés par la pêche ont pendant très longtemps été communs à la chasse. Et ils ont évolué de manière assez lente. Et chose remarquable, ils sont apparus de manière synchrone et indépendante dans différents lieux sur les 5 continents et à différentes époques sans qu'il y ait de lien apparent et qu'il y ait eu de migration qui permette le transfert d'innovations techniques. Sur cette photo, vous voyez des pointes de harpons qui remontent au XIe siècle avant notre ère. Maintenant, un chasseur à l'arc de l'Amazonie bolivienne qui utilise pratiquement les mêmes pointes. Et maintenant, une gravure de pêche à la mouche au Japon au XVIIIe siècle. Et enfin, vous voyez maintenant un hameçon qui remonte à 2000 ans avant notre ère, et hameçon qu'on utilise toujours. Donc une évolution très lente des engins de pêche, des engins de capture, et évolution synchrone sur les cinq continents. De manière plus récente, on peut noter deux bouleversements, deux innovations déterminantes. Premièrement, l'adaptation de la machine à vapeur à des engins mobiles, adaptation qui a été faite par Watt à la mi-18e siècle, vers 1850, mais ce n'est que vers un siècle plus tard que ces engins ont été adaptés à la pêche et aux bateaux de pêche. Donc une évolution très très lente et tardive. Et au XXe siècle, au début du XXe siècle et jusqu'à nos jours, l'avènement de l'électronique et de systèmes, de radars et de perfectionnement énorme. Comme vous le voyez, des bateaux. Là, c'est un tonnier Senneur moderne, océanique, qui est même équipé d'un hélicoptère. Donc, toutes ces innovations ont permis à la pêche d'être plus efficace par des engins de pêche plus efficaces, mais aussi d'augmenter leur rayon d'action. Mais ça n'a pas été le principal effet de la mécanisation et des progrès. Leur principal effet était plus indirect, en accroissant les transports d'une manière générale et donc les circuits de commercialisation des produits de la pêche. Ça a été un effet avant l'heure de mondialisation. D'un seul coup, on est passé d'une activité très liée à des besoins alimentaires et strictement alimentaires à une activité de nature beaucoup plus économique, strictement économique, et il n'y a plus de proportionnalité entre les captures effectuées, les efforts pour capturer des poissons et les besoins alimentaires. Tout est passé dans un secteur beaucoup plus commercial et lié au développement technologique, mais de manière assez indirecte. Je vais vous faire un rapide survol maintenant de l'état des pêches dans le monde. Donc on voit sur ce transparent, pas très transparent d'ailleurs, merci. Donc de 1950 jusqu'au début des années 80 et surtout 70, les captures totales de la pêche ont régulièrement augmenté. Et puis ensuite, elles ont augmenté de manière beaucoup plus faible. Et depuis le début des années 90, on constate un plafonnement dans les captures mondiales. Les captures de pêche proprement dites plafonnent à environ 90 millions de tonnes par an, alors que l'aquaculture, qu'on voit ici en rouge et dont je reparlerai un petit peu plus tard, elle ne cesse de croître. Donc plafonnement dans les captures, malgré des innovations technologiques énormes et un investissement très très conséquent dans le domaine de la pêche. Par ailleurs, cet accroissement des captures et ce plafonnement masquent en fait des changements profonds qui sont intervenus dans la composition des espèces. On voit que la grosse majorité des captures est réalisée sur des espèces pélagiques, sont des petits poissons de genre anchois, sardines, maquereaux, qui ont une valeur commerciale assez faible et qui sont destinés en grande majorité à la fabrication de farines animales ou d'huile. Donc un changement profond et une surexploitation quasi généralisée des espèces les plus nobles, les espèces les plus appréciées et les plus chères sur les marchés, qui sont en général les espèces carnivores, qui se situent plutôt à la fin de la chaîne alimentaire. Par ailleurs, l'essentiel des pêches, c'est quelque chose d'assez remarquable. Près de 80% des captures mondiales est effectué par 12 pays, dont la Chine en tout premier, suivi du Pérou, du Chili, du Japon et des États-Unis. Donc 12 pays représentent à eux seuls 80% des captures mondiales. La France se situe assez loin de ces chiffres, puisque en France, le total des pêches représente environ 600 000 tonnes par an, 600 000 tonnes auxquelles il faut ajouter la production d'aquaculture et surtout d'ostréiculture, pour laquelle nous sommes les premiers producteurs européens et de très très loin. Donc un peu comme l'agriculture a pris le relais de la cueillette, l'aquaculture s'est développée de manière considérable. Vous voyez sur ce graphique, ici c'est l'aquaculture d'eau douce, et là l'aquaculture en eau de mer. À l'heure actuelle, ces deux parties-là représentent 30 millions de tonnes par an, pour 90 millions de tonnes pêchées, je vous le rappelle, donc 30 millions, ce qui est énorme, et ça représente donc 20% à peu près de la production aquacole mondiale, ce qui est considérable. Dans ce domaine, la Chine se place au premier rang, puisque elle seule, et avec une production par aquaculture exclusivement pratiquement continentale, la Chine, qui est ici, représente 80% de la production mondiale par aquaculture. Voilà la Chine, et là l'ensemble des pays en développement, donc qui sont très, très majoritairement producteurs donc, de produits aquacoles. Les pays industrialisés, européens en particulier, sont très loin derrière en matière de volume. En matière de valeur, il en est tout autrement, dans la mesure où les espèces qui font l'objet d'aquaculture dans les pays industrialisés sont des espèces à haute valeur marchande, alors qu'en Chine et dans les pays en développement, il s'agit d'espèces destinées essentiellement à l'alimentation locale et donc de grosses quantités. Mais tous ces chiffres ne servent à illustrer que trois points majeurs qui sont que dans la pêche, comme vous l'avez vu, on constate d'une manière générale une surexploitation et surtout un surinvestissement. Surinvestissement économique qui provoque une surexploitation généralisée dans la mesure où les aides sont plus destinées à résoudre des problèmes immédiats, des problèmes concrets, des problèmes sociaux, d'emploi, préservation d'emploi, plutôt que de préserver les ressources qui sont exploitées et donc la viabilité à long terme de métiers, des métiers de la pêche et de la mer. Par surinvestissement, c'est ce qu'on entend par surinvestissement, c'est essentiellement de mettre plus que nécessaire pour réaliser le maximum de profit. Un exemple est assez édifiant à ce sujet-là. Au début des années 70, la pêche au flétan dans le Pacifique, la saison de pêche durait 9 mois. Elle était très réglementée, elle durait 9 mois. À l'heure actuelle, dû à l'investissement qui est fait dans les pêches, elle est limitée à 24 heures. 24 heures pendant lesquelles tous les bateaux se ruent à la pêche, au flétan, qui a une haute valeur marchande, mais la pêche est fermée au bout de 24 heures seulement. Donc les mécanismes économiques qui veulent que quand une ressource devient trop rare, ça ne vaut plus la peine de l'exploiter, et donc l'exploitation s'arrête et préserve la ressource, ces mécanismes économiques sont en fait inopérants pour protéger les ressources naturelles. Parce que les délais de chacun des secteurs, le secteur économique d'une part et les ressources naturelles, leur dynamique propre d'autre part, n'ont pas les mêmes temps de réponse. Les aides qui sont données pour résoudre des problèmes urgents dans le milieu de la pêche ont pour effet de favoriser la continuation d'une exploitation qui en fait n'est plus rentable. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais selon ce processus, ce sont essentiellement les pêcheries industrielles, les grosses pêcheries, qui sont très pénalisées et très concernées par rapport aux pêcheries artisanales, qu'elles se situent dans les pays développés, en France notamment, la petite pêche, ce qu'on appelle la petite pêche, ou dans les pays en développement, les pêcheries artisanales, qui sont en fait beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus souples, qui ont une capacité de réponse beaucoup plus rapide que les grosses pêcheries industrielles. Deuxième point majeur, la perception de ce qu'est un système pêche a été longuement faussée dans la mesure où l'homme était placé en dehors du système pêche. Cette représentation ici montre bien toutes les activités humaines regroupés ici en un sous-système, ce qui est une conception assez moderne de l'écologie, mais pendant longtemps, ce sous-système n'était même pas considéré, ou alors il était considéré de manière totalement indépendante. On ne s'est occupé pendant longtemps que de préserver les ressources, et absolument pas non plus de l'environnement qui supporte ces ressources, de leur écosystème. Donc toutes les procédures de gestion ont été organisées, conçues pour la protection des ressources et pour une gestion donc biologique des pêches. En fait, la réalité des choses est beaucoup plus compliquée dans la mesure où dans le ce qu'on appelle un système pêche qui comporte à la fois les ressources, les hommes, les hommes qui les exploitent avec les armements, les marchés, les conditions économiques qui prévalent, les valeurs qui changent, et également les fluctuations de l'environnement, c'est-à-dire du milieu dans lequel sont exploitées les ressources, est beaucoup plus complexe. Ce qui fait que dans un système dans lequel on ne considère qu'un des compartiments, c'est une vision extrêmement dangereuse dans la mesure où elle ne peut pas prendre en compte les questions de risque et d'incertitude sur le long terme et donc de prévoir la survie à la fois des exploitations et des exploitants, mais également des ressources et du milieu dans lequel ces ressources se situent, avec toutes les interactions possibles. Quand on exploite une espèce donnée, ceci a forcément un impact sur une autre espèce, qu'elle va, par exemple, qui va être sa proie ou qui, au contraire, va se nourrir de la première. Impact également de l'environnement sur les ressources et impact, évidemment, de la pêche sur les ressources, mais également sur l'environnement par tout ce que peut produire des pêcheurs, tout ce que peuvent faire des pêcheurs, un environnement dans lequel ils sont en concurrence avec d'autres activités comme le tourisme ou l'exploitation pétrolière. Ainsi, cette mauvaise perception d'un système très complexe a conduit à l'effondrement de la pêche de l'anchois du Pérou, effondrement qui s'est produit en 1972, avant celui de la sardine de Californie en 1952, dans la mesure où la pêche a été un facteur aggravant, mais pas le facteur essentiel, de fluctuations naturelles. Les événements El Niño, donc de réchauffement brutal de la température de la mer, ont un impact négatif, évidemment, sur la reproduction de ces espèces, mais cet impact a été accentué très fortement par une intensité de pêche qui était déjà très forte et qui avait été, il faut le dire quand même, soulignée et prédite par les chercheurs. Donc les écosystèmes sont affectés par des fluctuations naturelles importantes qui se conjuguent avec celles dues aux activités humaines, qu'elles soient de pêche, de tourisme ou plus économiques, plus indirectes, de fluctuations des marchés. Troisième point majeur, on constate les systèmes de gestion, que ce soit pour des ressources en poissons qui sont communes à plusieurs pays, comme des poissons migrateurs, les thons par exemple, aucun pays ne peut se prévaloir d'un droit de propriété particulier sur des ressources de ce genre-là. Vous savez que le nouveau droit de la mer a établi des zones économiques exclusives situées à 200 milles des côtes d'un pays donné et qui permettent à ce pays de gérer l'accès aux ressources, de vendre des droits de pêche dans toute cette zone qui lui appartient. Alors, autant cela est possible pour des ressources qui sont strictement inféodées à cette zone, autant cela est impossible pour des ressources soit qui sont à cheval sur deux zones, soit des ressources migratrices. Il y a donc un vrai problème d'adaptation des institutions chargées de la gestion des pêches à la choses, et contrairement à ce qui s'est passé dans l'agriculture, il n'y a eu aucun changement depuis les lois de Colbert pour ce qui nous concerne, aucun changement, aucune réflexion dans les droits d'accès, les droits d'usage de la pêche, contrairement à ce qui s'est passé en agriculture. Toute l'histoire de l'agriculture, le droit foncier a évolué en même temps que l'exploitation agricole et a favorisé le développement harmonieux de l'exploitation agricole. Dans la pêche, il n'y a jamais rien eu de ce genre. Alors la pêche doit rester un objet de gestion publique, parce qu'il ne faudrait pas qu'un acteur soit favorisé au détriment des autres, mais avec une participation probablement beaucoup plus grande d'un ensemble d'acteurs, qu'ils soient pêcheurs ou d'autres utilisateurs du milieu marin et des écosystèmes côtiers. Alors vous me direz, mais que fait donc la recherche dans tout cela? Comment s'organise-t-elle? Quel est son apport? les parlementaires, les décideurs disent « mais si la recherche ne nous dit pas quelles sont les décisions à prendre, si à nous, armateurs ou pêcheurs, la recherche ne nous indique pas comment capturer plus ou mieux vendre et améliorer la rentabilité de nos entreprises, à quoi sert-elle ?» Alors, ce sont souvent les questions et les interpellations dont font l'objet les chercheurs. Ces derniers sont, hélas, encore majoritairement des biologistes et presque uniquement des biologistes, comme moi-même. Cette étrangeté vient, comme je vous l'ai dit, d'une mauvaise conception du système pêche qui implique de nombreuses notions d'économie, des notions plus sociales, d'emploi, de droit, d'institutions, mais depuis toujours, les pêches et l'usage des ressources naturelles n'a été considéré et pris en compte que du point de vue biologique. Et le gros problème, je crois, vient de là. Donc le seul paradigme dominant est celui qui veut que gérer les pêches consiste à gérer les ressources et à se préoccuper uniquement de leur renouvellement. Et comme on l'a vu, les principales préoccupations des pêcheurs et des sociétés sont certes les ressources, mais c'est quand même également la vie de ces pêcheurs, la vie de ces sociétés et surtout la survie de tout un écosystème, la pêche n'étant qu'un usage parmi d'autres de ces écosystèmes. La recherche biologique dans le domaine des pêches et de l'écologie des poissons et des écosystèmes dans lesquels se situent les poissons a fait des progrès considérables au cours des 30 dernières années. La plupart des modèles, donc un modèle c'est une représentation mathématique d'un système naturel et de son fonctionnement, la plupart des modèles qui sont utilisés à la fois pour la gestion de la faune terrestre et pour la gestion des forêts naturelles ont souvent été conçus en biologie marine, en halieutique. Halieutique, c'est donc tout ce qui concerne le domaine de l'exploitation des ressources aquatiques. La modélisation et les méthodes de modélisation les plus modernes, vous avez entendu parler d'intelligence artificielle, de modèles neuronaux, de modèles autorégénérants, tous ces modèles sont utilisés en dynamique des populations et appliqués à l'écologie aquatique. Pour, d'une part, explorer et comprendre les liens entre les espèces et leur environnement, pour comprendre leurs stratégies propres de reproduction et comment ces stratégies de reproduction déterminent la survie d'une espèce, comment identifier et comprendre le rôle du comportement, ce qu'on appelle en termes plus scientifiques l'éthologie, le rôle du comportement à petite et grande échelle, comment ce comportement joue sur la survie d'une espèce vis-à-vis de la pêche notamment, et également quelle est son incidence en matière de gestion des pêches. La modélisation est donc à la fois un moyen de représentation, de compréhension, mais aussi un outil d'exploration d'un écosystème extrêmement complexe. Elle est alimentée par des recherches fondamentales, plus spécialisées donc sur la biologie des espèces, leur physiologie en général. Alors les sciences sociales, me direz-vous, après la démonstration ou au moins l'exposé que je vous ai fait de la complexité d'un système pêche, où sont les sciences sociales? Eh bien, les sciences sociales, elles sont encore très loin de s'investir avec la même intensité que les sciences biologiques dans les recherches sur l'écologie marine et sur la pêche en particulier. Elles sont très sollicitées, notamment les économistes, pour répondre à des questions à court terme, des questions justement destinées à identifier des aides urgentes à donner pour la préservation d'emplois, pour améliorer l'efficacité d'un engin, assurer son transfert au meilleur coût, etc. Il n'y a pas vraiment de recherches qui sont faites à la fois en sciences sociales et surtout pas en sciences juridiques, très très peu, sur les institutions et sur les meilleures méthodes de gestion, de l'accès et surtout de l'adaptation des moyens mis en jeu par l'homme pour l'exploitation de ressources qui, elles, ont leurs propres capacités. Alors le constat général donc, qui est fait ici sur les pêches et l'urgente nécessité d'une réorganisation des institutions, des modalités de gestion des pêches explique largement que, bien que biologiste, et passionné de mon domaine de biologie, j'ai concentré mon propos sur cet aspect des choses qui est probablement le plus ardu, le plus austère pour moi, et loin de, disons, de mes goûts personnels, mais je l'ai fait par amour, je crois, de ce milieu de la pêche, par amour partagé avec, je crois, tout l'ensemble d'une société pour les écosystèmes aquatiques, marins et continentaux. Le principal et, je crois, humble mérite donc de la recherche au cours des dernières années, et malgré un investissement extrêmement fort et des résultats scientifiques, purement scientifiques, très forts, et concluant, et sans doute d'avoir montré de manière incontestable qu'il ne saurait y avoir un système de gestion des pêches unique, immuable et transposable à toutes les situations. On comprend bien, d'après les quelques photos qui vous sont montrées, qu'un pêcheur à l'épervier, comme on en voit un là, ne pose pas du tout les mêmes problèmes de gestion que d'autres pêcheurs. Par exemple, là, ce sont des pêcheurs thoniers industriels, ou le premier donc, qui pêche sur une perche au Sri Lanka. Aucun modèle ne peut prétendre à l'efficacité s'il n'est fondé que sur des notions exclusivement biologiques. De même, aucun modèle exclusivement économique ne peut répondre à toutes les questions et à toute la complexité d'un système pêche qui implique à la fois de la biologie, de l'écologie, des sciences de l'environnement et des sciences sociales. La rapide esquisse de l'histoire de la pêche a montré que cette activité d'exploitation de ressources naturelles a une double et considérable importance, à la fois objective par l'alimentation et le rôle qu'elle joue dans l'alimentation de la population mondiale, donc 17% de l'alimentation en protéines provient des ressources aquatiques, et par les échanges économiques et tout le système économique qui est lié aux pêches. Mais également une importance énorme sur un plan beaucoup plus affectif et culturel et largement partagé dans pratiquement toutes les sociétés au monde. Donc c'est vraiment la place de ressources aquatiques et le milieu aquatique lui-même qui occupe une place fondamentale dans nos cultures, dans notre esprit et dans notre imaginaire. La pêche et les mythes sont donc les liens majeurs qui unissent depuis ses origines l'homme et les poissons. Anciennes autant que passionnées, ces relations ont toujours été empreintes d'une dimension culturelle très forte. D'abord directe et fondée sur la stricte satisfaction de besoins alimentaires, j'ai montré, je crois, qu'elles sont devenues maintenant beaucoup plus indirectes sous l'effet d'industrialisation, des progrès technologiques, et qu'elles sont l'objet d'enjeux économiques et sociaux extrêmement importants au plan mondial avec la mondialisation des marchés. La compréhension de ce qu'est un système pêche, je crois, devrait permettre de montrer que, outre son importance propre, qu'elle soit affective ou objective, la pêche est surtout le témoin, la sonnette d'alarme et un très bon indicateur de l'impact de nos activités humaines, quelles qu'elles soient, sur les milieux aquatiques et sur les écosystèmes qui nous font tant rêver. Et je pense donc que les mesures nécessaires et une prise de conscience très forte et croissante permettra de mieux mobiliser la masse de connaissances scientifiques qui ont été accumulées et qui sont souvent très mal utilisées dans la mesure où les questions ne sont pas posées en termes d'expertise comme elles le devraient. Les chercheurs ont un métier, c'est celui de la recherche. Ils sont tout prêts à apporter leurs connaissances pour des prises de décision, mais il faut qu'on leur pose les questions et de bonnes questions. Et je voulais indiquer aussi peut-être une mobilisation plus grande des sciences sociales qui, pour le moment, sont surtout interpellées d'un point de vue strictement expertise, alors que la recherche de base, qui devrait nourrir cette expertise, est encore balbutiante et très très faible. Donc pour que la mer continue de nous nourrir et de nous rendre nos rêves accessibles, je crois que tout cela est nécessaire et que la recherche a son rôle à jouer, mais également la décision politique est une décision partagée avec tous les acteurs et toutes les personnes, les sociétés intéressées par les écosystèmes aquatiques en général. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Nous allons passer aux questions dès que les micros seront en place. Mais commencez déjà à lever la main, comme ça que je vous vois. Il y a une question là.
Je peux y aller ?
Oui.
J'ai une question qui était un peu une double question. Vous nous avez donné un ordre de grandeur du volume pêché à l'échelle mondiale, plus l'aquaculture, en tout, si j'ai bien compris, à peu près 120 millions de tonnes, 90 plus 30. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée de ce qu'on estime, alors à long terme, par exemple 2020, quel serait le total et comment ça se répartirait ? Ça, c'est la première question. Et alors, la deuxième partie, il y a quelques semaines dans Le Monde un article sur des saumons génétiquement modifiés élevés en Norvège. Quelle est l'importance que pourraient avoir les OGM sur l'aquaculture et en particulier la pisciculture ?
Oui, alors, en matière de perspectives de croissance de la production, les perspectives sont quand même très faibles. Dans les conditions actuelles d'exploitation, c'est-à-dire telles qu'on exploite les océans un peu partout, par toutes les méthodes, qu'elles soient industrielles ou artisanales, les seules perspectives d'accroissement de production se situent dans l'océan Pacifique Ouest et dans l'océan Indien. Et concerne quelques ressources, mais quand même très très peu. Donc perspective de croissance assez marginale. Maintenant, cet accroissement pourrait être bien supérieur, moyennant une gestion différente et surtout une exploitation différente et beaucoup plus équilibrée. Il est certain que les très grosses pêches qui sont faites sur des petits poissons en début de chaîne alimentaire ont un impact sur les autres poissons qui se situent en fin de chaîne alimentaire et qui sont les plus importants du point de vue nutrition, alimentation humaine. Donc perspective qui amènerait au maximum, selon les projections actuelles, on arriverait à peu près à 100 hors aquaculture, uniquement exploitation des ressources naturelles, on arriverait à 100, 110 millions de tonnes peut-être, mais pas beaucoup plus. Alors pour ce qui concerne votre deuxième question à propos des OGM, oui, il y a une recherche importante sur la mise au point d'organismes génétiquement modifiés, donc d'espèces génétiquement modifiées pour chez les saumons et chez les espèces les plus utilisées en aquaculture. Quelles sont les perspectives ? Je crois que ce serait assez dangereux vu l'espace qui existe encore pour développer l'aquaculture, de se lancer tout OGM, etc. Cela dit, il ne faut quand même pas avoir une crainte immodérée vis-à-vis d'organismes génétiquement modifiés, dans la mesure où la modification d'un gène, si tout est étudié par ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de danger de transmission à des populations sauvages, et donc que tout ça soit soigneusement contrôlé, je crois qu'il ne faut pas avoir peur des OGM. Les OGM, tels qu'ils sont pour le moment les saumons génétiquement modifiés auraient une croissance beaucoup plus rapide, tout en conservant des qualités de goût, qualités organoleptiques meilleures que celles qu'ils ont actuellement et que certains saumons d'élevage ont. Par ailleurs, le souci, je crois, dans ces recherches OGM, c'est également de produire des animaux qui grandiraient plus vite et qui auraient un impact en termes de pollution de l'environnement bien moindre. Comme vous le savez, le développement d'aquaculture de manière un petit peu incontrôlée, notamment en Thaïlande et en Amérique du Sud, mais également dans certains fjords de Norvège, a eu des effets catastrophiques en termes de pollution de l'environnement, simplement par le fait de quantités importantes de nourriture donnée aux poissons qui n'étaient pas ingérées et donc qui a tapissé le fond des mers et provoqué une pollution de nature bactériologique, et également les déjections des poissons eux-mêmes en grand nombre, leur densité trop forte, avec le développement de maladies qui se sont transmises à des populations naturelles en dehors des cages. Donc un effet pollution diverse extrêmement important et de l'aquaculture et qui pose de gros problèmes. Et je crois que les recherches pour améliorer ou changer certaines facultés des espèces visent également à tempérer, disons, ces risques de pollution.
Une question là-haut, puis là.
Si les suivis des pêcheries, des flottes de pêche par GPS et après la transmission des tonnages pêchés qui sont présentés soit comme étant des données économiques pour être sûr d'aller toujours à des endroits où ne pas rester à un endroit où les tonnages diminuent ou qui sont parfois présentés comme des données de protection, c'est-à-dire être sûr de ne pas dépasser les quotas, est-ce que ça relève du domaine économique? Est-ce que ça relève du domaine biologique? Est-ce qu'il y a des recherches faites dans les deux domaines sur cette façon d'essayer de gérer la pêche? Et d'autre part, je voudrais savoir si vous avez des renseignements sur l'objectif de la recherche qui est faite actuellement, en particulier dans la mer du Nord, pour faire des sondages, c'est fait par IFREMER, pour, je ne sais plus comment ça s'appelle, IBTS, c'est ça ? Faire des sondages pour savoir quelles sont les espèces à des endroits donnés. Il y a un quadrillage et ça a l'air d'être un projet mondial. Je l'ai vu sur IFREMER uniquement sur cette zone-là. Mais je voudrais savoir, et à nouveau, qui est l'instigateur ? Est-ce que ce sont les biologistes qui veulent savoir où sont les espèces ? Ou est-ce que ce sont les économistes qui veulent savoir où il faut envoyer les bateaux de pêche ? Ou est-ce que là, il y a les deux volets se rejoignent et répondent un petit peu à ce que vous avez dit, c'est-à-dire on commence à se rendre compte qu'il faut, on ne peut plus séparer ces deux visions de la pêche.
Bien, je vais. En fait, vos deux questions ont un point commun essentiel. Votre première question se réfère en fait et illustre le fait que la plupart des données qu'utilisent les biologistes et les modélisateurs pour comprendre comment évoluent les populations de poissons et quel est l'impact de la pêche sur ces populations proviennent des pêcheurs eux-mêmes. Donc ce sont les pêcheurs et la pêche qui fournissent ces informations, puisque, comme vous le savez, le milieu océanique en particulier, puisque c'est de celui-là que vous parlez, est immense. Les ressources, certes, elles ne sont plus invisibles comme elles l'étaient il y a quelques années grâce aux moyens de repérage de sonar, etc., mais elles sont quand même difficilement, disons, palpables et manipulables et évaluables directement. Donc il est extrêmement important pour les scientifiques et très intéressant de pouvoir suivre en temps réel l'activité de pêche de bateaux en mer. Il est indéniable que, d'un point de vue strictement gestion d'un armement, ce genre de données est également indispensable. L'armement a besoin de savoir quelles sont les quantités capturées, est-ce que le bateau est rentable immédiatement, où est-ce qu'il va devoir décharger sa cargaison en fonction des marchés susceptibles d'absorber au meilleur cours la production de grosses flottilles. Donc l'installation de GPS et surtout de balises de transmission directe de données de capture, quelles sont les captures faites, à quel endroit, quelle est leur nature et en quelle quantité, sont à la fois très très utiles pour la recherche et très utiles pour la gestion d'armement de pêche. Maintenant, vous avez fait référence aux campagnes IBTS de l'IFREMER. Ce sont des campagnes qui sont organisées depuis plusieurs années dans un cadre européen et qui, IBTS, ça veut dire International Bottom Trawl Survey, c'est-à-dire contrôle international par chalutage sur le fond. En fait, ces campagnes à la mer, qui sont des campagnes scientifiques, ont pour le but d'essayer de prédire quelle est la quantité de jeunes poissons qui sont nés et qui vont venir alimenter la pêcherie. Pour pouvoir donner des indications donc, à la Commission européenne, à l'Union européenne, sur les réglementations à adopter l'année suivante, au moment où ces jeunes poissons rentreront, seront donc capturables et limités par un certain nombre de procédures de genre quotas, de quantités capturables, etc. Ces campagnes sont absolument indispensables du fait qu'on se rend compte que les données des pêcheurs, pour des raisons diverses et variées, c'est-à-dire une répartition très inégale des bateaux de pêche sur les zones où se situent les ressources, et donc des biais très importants et surtout qu'on ne peut pas évaluer dans les données qui sont fournies par la pêche. Ce qui fait que de plus en plus, et c'est une tendance mondiale, l'observation directe et répétitive selon des méthodes standardisées, observation de nature scientifique, devient indispensable. Donc il y a quelques années, on avait mis en cause un petit peu le coût, c'est un coût énorme, les navires de recherche océanographique représentent un coût certain, mais ce coût, maintenant, est de plus en plus justifié, et on constate dans le monde entier un investissement croissant dans les moyens scientifiques d'observation directe des ressources et de prévision des ressources. Ces campagnes IBTS sont donc organisées et ont été organisées un peu avant l'heure dans cet état d'esprit d'avoir un certain nombre de paramètres objectifs sur l'état des ressources et surtout sur la prévision de ces ressources et de leurs fluctuations, prévision à court terme.
J'ai une question là, puis une là-bas.
L'importance exacte du retentissement du naufrage de gros pétroliers comme le Banco Cadiz ou autre.
On a évalué au moins partiellement le retentissement, avec un impact à court terme extrêmement négatif, pas besoin de détailler cette question, et à contrario, mais il ne faudrait surtout pas en tirer une conclusion généralisable, certains échouages de pétroliers à la côte ont eu un effet à moyen terme, donc de quelques années, plutôt positif par un enrichissement algal, puis développement de communautés sur un certain nombre de ressources et sur la biodiversité. Mais je tiens à être extrêmement clair, il ne faut surtout pas en tirer un enseignement généralisable sur un quelconque effet bénéfique de catastrophe pétrolière de ce genre. Il y a quand même des tas d'effets qu'on ne voit pas, notamment avec le dernier accident en date, sur le pétrole qui coule, et qui est coulé d'ailleurs, puisqu'on élimine les nappes de surface, et qui est coulé sur des fonds de 100, 150, 200 mètres de profondeur, où là, on ne sait pas grand-chose sur l'effet très probablement négatif de ces accidents pétroliers, dans la mesure où c'est comme une chape de plomb, une couverture qui s'abat sur le fond de la mer, sur le substrat, et qui donc va bouleverser complètement tout l'écosystème marin et avoir des répercussions très importantes sur toute la chaîne de vie, y compris les poissons.
Bonjour. Oui, par ici. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire l'origine de l'envahissement de la taxifolia et quel est l'impact futur sur la faune aquatique ? Et si c'est possible d'une façon scientifique.
Oui, alors c'est le Taxifolia, en fait c'est Caulerpa, hein, c'est une algue qui a envahi la Méditerranée assez brutalement et qui rentre en compétition par le substrat, l'environnement qu'elle crée avec d'autres environnements que sont par exemple les herbiers à Posidonie, donc sont des genres de prairies sous-marines qui étaient le lieu de développement de toute une faune très particulière à la Méditerranée. Alors quelle est l'origine de l'introduction de Caulerpa, de la Caulerpa, l'algue tueuse comme on l'a surnommée? Elle a eu plusieurs origines. Il semblerait que l'aquarium de Monaco, je crois, ait peut-être eu un impact dans ce genre-là en relâchant des eaux dans lesquelles il y avait des jeunes caulerpas. Mais ce n'est certainement pas la seule cause d'envahissement. Il y a le canal de Suez, il y a de nombreux bateaux qui naviguent, qui déchargent leurs soutes de pleines d'eau de mer et qui ont pu, je veux dire, les remplir avant d'une eau de mer provenant d'ailleurs avec des caulerpas. Donc l'effet aquarium a peut-être contribué, mais de manière probablement minime et certainement pas la seule. Alors quel est l'effet de caulerpa? C'est certain, c'est un bouleversement complet de l'écosystème méditerranéen. Bouleversement, je dirais, qui était presque inéluctable. Il ne faut pas avoir une crainte absolue, ultra-conservatiste, sur les écosystèmes qui évoluent naturellement, même si là, cette évolution a pu être favorisée par un certain nombre d'éléments. Je crois que Caulerpa va permettre, et certaines recherches l'indiquent, un certain enrichissement autre, nouveau. Il y a d'autres espèces qui vont se développer, y compris de poissons, dans les milieux créés par les caulerpas. Alors, tout ceci fait l'objet d'études importantes et de recherches importantes, puisque environ 350 à 400 chercheurs de la communauté scientifique française, tous organismes confondus, universités et organismes de recherche, sont impliqués à temps complet dans les recherches sur l'impact des caulerpas sur l'écosystème méditerranéen et leur devenir. Donc ce que je vous dis, c'est très provisoire, mais disons que l'impact positif ou négatif, il y a un impact, c'est certain. Est-ce qu'il sera plus positif que négatif? C'est un changement. Il n'y a pas de raison non plus, a priori, de parler d'algues tueuses. Oui, elle est tueuse d'un ancien écosystème qui va probablement se maintenir. Il va y avoir un rééquilibrage entre ces deux formes d'algues et d'environnement, mais on ne peut pas prédire lequel prévaudra et de quelle manière. Mais ce sera un changement, pas forcément négatif.
Une question là.
Oui, d'abord une information. J'ai eu l'occasion de voir au Salon de l'agriculture. Apparemment, c'est peut-être le seul lagon ou le seul endroit où, au point de vue culture, de crevettes, donc. Les crevettes donc bénéficient de l'eau du lagon, donc naturelle. Donc on ne les nourrit pas. C'est directement la nourriture du lagon et ça se passe en Nouvelle-Calédonie. Alors j'ai été très surpris et je trouve que c'est une bonne nouvelle. La deuxième chose, à propos du saumon, effectivement, les saumons qui sont soit d'élevage ou qui sont soit transgéniques, à partir du moment où il y a des éléments qui font que ça se déverse ou qui se sauve, ils frayent avec des saumons sauvages. Donc là, il y a un problème, j'imagine, assez sérieux. Troisièmement, au niveau des filets dérivants, je veux savoir jusqu'à partir de quand on va commencer à contrôler sérieusement les filets dérivants, parce que c'est non seulement les poissons, mais c'est aussi les cétacés, les dauphins qui sont pris. Et puis, un poisson dont on parle peu en ce moment, mais enfin on en a parlé pas mal, c'est l'avenir de la morue, parce qu'il s'avérerait qu'en ce moment les prises sont plus fortes que les natalités. Et aussi, pourquoi dans les marchés de poissons on ne trouve plus de thon blanc, parce que paraît-il que c'est réservé à la conserverie.
Une grande diversité, biodiversité de questions. Bon, je ne reviendrai pas sur vos commentaires pertinents, hein, sur les risques de transmission de caractère génétique à partir de, d'espèces modifiées à des espèces, disons, sauvages. Hein. Je l'ai évoqué, c'est un risque certain et qu'il faut absolument prendre en compte dès le début. Et en général, au moins pour ce qui concerne les recherches en agronomie sur les plantes, il y a toujours des programmes de recherche associés sur ces dangers de transmission des caractères génétiques artificiellement inclus. En ce qui concerne les filets dérivants, alors les filets dérivants, c'était une technique de pêche nouvelle qui a été introduite par les Asiatiques il y a une dizaine d'années et qui utilisait des filets de plusieurs dizaines de kilomètres de long, 70-100 kilomètres de long, des filets maillants, donc c'est le filet classique qui était posé en mer, dans l'océan, et qui avait donc le pouvoir d'attraper tous les poissons qui passaient par là et qui essayaient de passer à travers le filet, un filet de cette taille. Et un impact important sur toutes les espèces de manière indifférenciée, car c'est un engin très peu sélectif, donc à la fois sur les mammifères marins, les dauphins, les baleines, sur les requins, sur des tortues, et également sur des oiseaux de mer, du fait que certains filets se déchirent et continuent à pêcher dans l'océan pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et à accumuler tout et n'importe quoi. Alors actuellement, il y a une interdiction totale et mondiale des filets dérivants, qui est relativement bien contrôlée un peu partout, avec quelques exceptions, notamment pour les pêcheries françaises, pour les pêcheries françaises de thon, puisque et italiennes, dans la mesure où il est encore autorisé des filets, je crois, d'un kilomètre et demi de long, mais pas plus. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes dimensions, dans les mêmes ordres de grandeur, mais même ce genre de filet devrait disparaître rapidement. Alors en ce qui concerne la morue, effectivement, vous soulevez une question importante et qui est un petit peu, je dirais, une honte et une épine dans la recherche. Et notamment, je pense à la morue du Canada, où, comme vous le savez, le Canada a un dispositif de recherche extrêmement sophistiqué, bien plus important que celui que nous avons en France, et très efficace, très performant scientifiquement parlant, et très important, très coûteux, etc. Et un suivi très précis de l'état des stocks de morue. Et il y a quelques années, malgré ce dispositif scientifique conséquent, effondrement catastrophique des populations de morue, dû à la fois à probablement des imperfections dans l'entreprise des recherches, mais surtout à une mauvaise prise en compte de l'impact à moyen terme de fluctuations environnementales qui se sont conjuguées donc avec une pêche intensive, certes, mais qui restait dans les limites moyennes raisonnables. Mais la moyenne raisonnable n'a pas de sens en biologie vis-à-vis de populations qui peuvent fluctuer de manière très importante sous l'effet de l'environnement océanique. Donc la catastrophe s'est passée à ce niveau-là. Maintenant, en ce qui concerne l'avenir en général des stocks de morue, la pêche de la morue, que ce soit en Islande ou en Norvège, est extrêmement contrôlée. Et pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude majeure. La Norvège, aussi bien la Norvège que l'Islande, sont très jaloux de leurs prérogatives en matière de gestion, des gestions draconiennes. Et on n'a pas d'inquiétude majeure sur ces populations. Alors le thon blanc, on n'en trouve plus sur les marchés. Je vous dirais peut-être, on n'en trouve plus en frais, on en trouve moins en frais. Effectivement, le thon blanc est de plus en plus apprécié pour la conserve, alors qu'avant, il était destiné surtout à la consommation en frais. Et comme vous le savez, en Europe, la France, l'Espagne et l'Italie sont les principaux producteurs, pêcheurs de poissons frais. les autres pays, le Danemark en tête, pêchant surtout des poissons destinés soit à la farine, avec des volumes beaucoup plus importants que les pêcheries espagnoles, françaises ou italiennes, mais de faibles valeurs marchandes. Ou bien alors, ils sont très friands de poissons qui sont mis en petites barquettes, congelées ou en carré. Alors le thon blanc fait l'objet d'une commercialisation sous forme de conserve importante, dans la mesure où les marchés européens, allemands en particulier, sont de plus en plus demandeurs de poissons en conserve. Et je partage votre souci et vos regrets que l'on en trouve moins sur les marchés, mais je vous donnerai une adresse où j'en trouve toujours.
Une question là, puis là.
Oui. Vous avez affirmé que les écosystèmes qui contiennent les ressources marines ont la faculté de revenir à un état initial, c'est-à-dire donc de ne pas voir certaines espèces menacées disparaître, et d'autre part donc que cette faculté de régénérescence est incertaine. Pourquoi est-ce qu'on en connaît les causes ? Merci.
Alors oui, c'est ce qu'on appelle cette faculté de retour à l'état initial, c'est ce qu'on appelle en termes scientifiques la résilience, faculté de résilience. Elle est très faible du fait de la complexité des écosystèmes, c'est-à-dire du nombre d'espèces qui interviennent et qui toutes, d'une manière ou d'une autre, sont liées. L'importance d'une espèce donnée est très liée à l'importance d'une autre dont elle est la proie ou pour laquelle dont elle se nourrit. Donc, dès qu'on modifie, c'est vraiment un système. C'est-à-dire que un système, si vous en changez un des éléments, le système lui-même change. Et il n'a pratiquement pas de moyen de. C'est très rare, très difficile qu'il revienne à son état initial. Alors ça peut arriver, mais d'une part c'est difficilement contrôlable de manière par l'homme, à moins de faire des zones complètes de réserves ou de parcs naturels marins, ce qui arrive. Mais en général, on arrive très peu à revenir à l'état initial. C'est également vrai pour certaines forêts. Dans les pays en développement, vous savez que la forêt est souvent défrichée pour des besoins agricoles et on avait pensé pendant un moment, d'une manière ou d'une autre, incitons les agriculteurs à ne plus défricher la forêt et aller s'installer ailleurs avec de bons moyens de production et la forêt va revenir. Et en fait, non, la forêt ne se réinstalle pas, c'est une espèce de savane arborée qui s'installe, mais on ne revient pas à l'état initial. Donc c'est un petit peu le danger auquel il faut être extrêmement attentif. Et quand je dis danger, je le redis, il ne faut pas non plus être complètement ultra conservatiste à mesure où les changements au cours de l'histoire naturelle du monde ont toujours existé et il ne faudrait pas devenir plus conservatiste que la nature ne le fait elle-même.
Deux dernières questions, une là, une là.
Monsieur, bonjour. Mais à propos du conservatisme, il y a des espèces à protéger, hein, et il y a des espèces. Est-ce qu'il y a des espèces protégées, des espèces à protéger, et comment on peut les protéger? Parce que la pêche est peut-être un moyen de ne pas protéger les espèces, non? Je ne sais pas, c'est ce que je pense.
Oui, alors là, il existe des espèces à protéger, un organisme, un certain nombre d'espèces sont classées dans ce qu'on appelle le CITES. C'est une liste d'espèces marines donc, qui sont déclarées en voie de disparition ou en danger et qui sont donc ultra protégées et totalement interdites de capture. Alors, là, tout ceci, quand on interdit la capture d'une espèce, il faut, c'est comme dans les lois, quand on fait une loi, il faut être sûr de pouvoir l'appliquer et de la faire appliquer. Et le gros problème se situe là. Alors quand on dit la pêche n'est pas le meilleur moyen de protéger des espèces, oui, c'est vrai, mais elle peut être également, si elle est bien conçue, et je pense que c'est un petit peu l'avenir dans lequel qui se dessine, c'est-à-dire que la pêche rentrerait beaucoup plus dans un système de gestion écosystémique, c'est-à-dire en comprenant bien quel est le fonctionnement de l'écosystème. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, les pêches crevettières, pêcheries tropicales, donc la crevette est une valeur à haute valeur marchande, la crevette tropicale, et quand un bateau va en mer pour pêcher la crevette, il n'a pas du tout, surtout dans un système de pêcherie industrielle et d'armement industriel, il ne ramène rien d'autre. Ce qui veut dire qu'il y a à peu près 60 à 70% de ce qu'il capture qui est rejeté à la mer. Donc des rejets très importants, parce que ce sont des espèces qui n'intéressent pas l'armement, qui ne commercialisent pas, ou bien alors qui n'ont pas de valeur marchande. De même que quand on met une loi, comme il en existe dans certaines pêcheries, de ne pas ramener des poissons de plus de telle taille. Alors effectivement, on peut tenter d'élaborer des engins de pêche qui vont être très sélectifs, mais ils ne le sont jamais complètement. Et donc on relâche des quantités importantes de l'espèce protégée jusqu'à une certaine taille, de ces poissons d'une petite taille. Ils tombent sur le fond, et alors, la mer, je veux dire, on l'a souvent décrite comme un moteur avec une capacité de recyclage, enfin une poubelle, mais très active, hein, qui recycle tout, qui remet tout entre eux. Bon, il y a des limites, elle a quand même ses limites. Quand on relâche des tonnes de poissons et qui tombent sur le fond d'un seul coup, avant que les crabes, les bactéries, etc. puissent ingérer tout ça, et avant qu'il y en ait un autre paquet qui leur retombe dessus, souvent il y a des dégâts très importants. Donc la pêche doit être bien conçue, et je pense que c'est son avenir, et ce sont ces méthodes qui permettront probablement d'augmenter d'une manière globale les rendements et les débarquements des 90 millions de tonnes à l'avenir. Alors, le problème que ça pose, problème majeur que ça pose, il se pose en termes d'emploi, dans la mesure où, inéluctablement, et c'est la grosse question auquel sont confrontés donc, nos décideurs politiques et parlementaires en charge de la pêche, c'est de préserver l'emploi ou d'opérer de manière progressive, parce que c'est un souci plus que légitime aussi. Donc je pense que cette évolution se fera, mais elle se fera lentement, et que la pêche peut contribuer d'une certaine manière à dynamiser un écosystème. Ce n'est pas uniquement un élément forcément négatif d'un écosystème, si elle est faite avec mesure et avec mesure.
Une toute dernière question rapide, s'il vous plaît.
Oui, bonjour. Ma question est d'ordre général. En effet, on constate de plus en plus que la recherche et les chercheurs, notamment dans le domaine alimentaire, ne sont pas toujours, hélas, positifs pour la vie de l'homme. Ils nous font même peur. Pour preuve, les OGM, apparemment peu rassurants, et les farines animales qui ont produit des vaches folles avec les conséquences que l'on sait pour nous tous. Quel est le sentiment objectif du chercheur que vous êtes ?
Alors, mon sentiment, je dirais, c'est autant un sentiment de chercheur qu'un sentiment de citoyen, au même titre que n'importe qui d'entre nous ici. Mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas... C'est-à-dire une grande crainte, comme je l'ai dit, il faut une extrême prudence de la recherche. Mais en même temps, je veux dire, il y a des besoins alimentaires extrêmement importants dans le monde entier, notamment dans les pays en développement où le problème de sous-alimentation sont chroniques et sont bien réels, et où la culture d'un certain nombre de productions, de céréales, etc., est extrêmement difficile du fait des nombreuses maladies, parasites, viroses, etc. Et de ce point de vue-là, je dirais essentiellement de ce point de vue-là, et pour ces pays-là, je crois que les organismes génétiquement modifiés, s'ils sont conçus avec toutes les précautions dont je vous ai fait part, c'est-à-dire de non-diffusion à l'extérieur, sur des espèces sauvages, dont elle pourrait affecter une diversité génétique, les OGM représentent également une chance énorme. Mais avec, je dis, toute la précaution et la prudence qui s'impose avant de mettre en culture des organismes génétiquement modifiés dont on ne saurait pas quelles pourraient être les capacités de diffusion et donc d'uniformisation d'un certain nombre de variétés naturelles sauvages.
Patrice Quéré, je vous remercie.